Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Aquí la sombra.
Les rares sont les personnes à avoir pu contempler un tigre en train de manger de l'herbe.
Sombra. Entre les grandes surfaces, les plages, les parcs, les occasions ne manquent pas.
C'est pas quoi faire.
Ici l'ombre.
Aki sombre.
Ça va servir comme ça.
Écoutez, Jean-Luc, je pense que je vais vous rappeler d'ici quelques minutes.
En vacances, mes enfants ont besoin de liberté et moi de sérénité.
This is shade time.
Indéchirable, hypoallergénique, waterproof.
Ici l'ombre.
Qui sait, ce sera peut-être même la tendance de l'été.
Ici l'ombre.
Écoutez, Jean-Luc, je pense que je vais vous rappeler d'ici quelques minutes, pour l'instant.
D'accord, l'antenne vous est ouverte, bien sûr.
Je peux pour l'instant.
Trouver de l'ombre.
Ici, l'ombre.
J'ai commencé à danser comme une folle. Je voulais tout oublier.
Ici, l'ombre.
À qui sombre.
Meilleur temps.
Trouver de l'ombre.
À qui la sombre.
Ici, l'ombre.
Et maintenant, commençons avec ce générique qui fait dodeliner de la tête et qui fait balancer les hanches. C'est Ici l'ombre avec Elie Elkaïm et Emmanuel Plaza aujourd'hui. Aujourd'hui, nos invités sont Daphné Breté et de l'association Raisonne et Jean-Claude Hoc, romancier, critique d'art et historien de la littérature, à propos d'un cycle de conférences qui se tient dans le cadre de Casanova Forever, une grande manifestation dédiée à l'art contemporain à travers la figure de Casanova, une manifestation initiée par le Fonds régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon. Nous les recevrons donc d'ici quelques minutes, mais pour l'heure, voici les bons plans de ce vendredi 9 juillet. Et on commence avec de la musique brésilienne dans le cadre des estivales de Montpellier. C'est avec Ivinho Lopez à 19h au kiosque Bosque et c'est bien entendu gratuit. Mais ce n'est pas tout parce que dans le cadre de ces estivales, il y aura également Foro Station avec. C'est à 20h sur les escaliers du Corum et Mata Verde en déambulation sur l'esplanade. Là aussi, c'est gratuit. Gratuit également un concert de jazz par Shanghai Express, un groupe de jazz montpelliérain composé de Stéphane Beuvelet à la batterie, Emmanuel Baird à l'orgamonde et Jean, une jeune chanteuse de Shanghai. C'est à 21h au Square Saint-Roch et c'est gratuit, je le disais. Le groupe bitérois Smoky Joe Combo a pris ses quartiers d'été à Montpellier et c'est au Trinque Fougasse, comme d'habitude, que ça se passe. À 21h30 ce soir, le Trinque Fougasse se trouve route de Mende. Vous paierez 5€ supplémentaires par personne sur l'addition, puisque rappelons-le, le Trinque Fougasse est un restaurant. Vous pouvez vous renseigner au 04 99 23 27 00 et vous pouvez également réserver probablement à ce numéro. Au boulevard Louis Blanc, au Baloir, c'est soirée pop-punk ce soir avec les Gecko, ainsi que Jesse et Unburn 2, des groupes de pop-punk, donc qui se produisent à partir de 20h au 21 boulevard Louis Blanc, donc pour 4 petits euros. Le festival Art des Vignes se tient tout ce week-end à Sussargues avec aujourd'hui le quartet et Sheriff Pitch Quartet pardon et Sheriff Soumano pour du jazz mandingue, Swai pour de la new soul et du futur jazz, Julien Monin il est fil de feriste et puis une performance de slam par le Nîmois Zob ainsi que des Potax pour un show dont on ne nous dit pas grand chose. Il faudra se rendre sur place pour en savoir davantage. C'est à 19h donc aux carrières de la Font d'Armand à Sussargues et vous paierez 8€. À Saint-Bosile de Putois se poursuit le festival Festiberge avec ce soir nos chouchous Marvin. En ouverture de soirée ou peut-être en fermeture, on ne sait pas très bien. Il y aura également Lunatic Age, un groupe montpelliérain de rock là encore. ainsi que Lines, groupe d'électro-rock, Bromios, groupe de rock metal. Tout ça débute à partir de 19h sur le plan d'eau au bord de l'Hérault à Saint-Bauzy-de-Putois et c'est gratuit. À Balaruc, les bains, c'est bien cette ambiance africaine ce soir avec le festival Musique d'ailleurs. Vous pourrez y traverser un village exotique avec un marché de la musique à partir de 14h et puis un repas de spécialités africaines. Et puis également un groupe du groupe Bassissoko, excellent groupe de musique africaine à partir de 21h30 au théâtre de Verdure. C'est gratuit. C'est pas gratuit, mais c'est bien bon quand même, le Worldwide Festival qui se poursuit à 7 avec aujourd'hui le Club des Losers en DJ set, ainsi que WeFunk et Samfa, c'est de 14h à 18h sur la plage ADC. Et puis ce soir, au Théâtre de la Mer, toujours dans le cadre de ce Worldwide Festival, l'Orchestre Poly Ritmo de Cotonou, ainsi que Havana Cultura par Gilles Peterson et Roberto Fonseca. C'est à partir de 19h30 et jusqu'à 23h au Théâtre de la Mer à 7. Et puis en ouverture de soirée, The Gaslam Killer, Joy Orbison et Theophilus London, ainsi que Ganja Soufi. Là, ça se passera au Saint-Christ à partir de 20h. C'est tout près du phare de 7. Anime du lourd et du poilu avec ZZ Top, les Texans qui reviennent, qui sont toujours là. Groupe de hard rock américain donc des années 70 avec en première partie Joe Bonamassa, chanteur et guitariste de blues rock américain. Et puis un groupe invité dont on ne nous communique pas le nom, ça débute à 20h aux arènes de Nîmes. Les locations se font aux points habituels et le tarif n'est pas communiqué. Dans le Gard toujours, mais un peu plus près de nous, à Vauvert, c'est une soirée jazz donc avec Manu Katché, batteur de jazz français, auteur, compositeur, interprète, avec en première partie China Moses and Raphaël Lemonnier Quintet, la fille de Didi Bridgewater, vous le savez sans doute, qui est accompagnée par le pianiste nîmois Raphaël Lemonnier, ainsi que Fabien Marcos à la contrebasse, Jean-Pierre Drouard à la batterie, Daniel Huc au saxophone. C'est dans le cadre des Nuits du Jazz à Vauvert, c'est à 20h30 dans les arènes. Le prix des places varie de 17 à 20€. À Saint-André-de-Sangonis se poursuit le festival Nuit Couleur avec ce soir NESK, Nomad et Skatera, un groupe français de rock métissé de ska. Et en première partie, ce sera Super Chips, un groupe montpelliérain de rock festif. C'est à 21h au stade de Saint-André-de-Sangonis et c'est gratuit. Toujours dans l'arrière-pays, mais aux causes de la selle cette fois-ci, une soirée funk avec Atomic Small Clone, un groupe de funk de la région, avec entre autres le chanteur new-yorkais Alex MC Adams et Florian Beigbeder au clavier, ainsi que DJ Auriculaire, et oui, c'est bien son nom. C'est à 19h30 à la Grange, aux causes de la selle, et pour l'entrée, eh bien, c'est participation libre. À Sauve, soirée électro avec festival Malin Sauve, organisé par l'association Anne Liguay, soirée DJ avec Roma Lioc, Black House et quelques autres. C'est à 21h sur la place de la Vabre à Sauve et c'est gratuit. Dans un tout autre registre, et ce sera notre dernier bon plan, La vie parisienne, un opéra bouffe de Jacques Offenbach, mise en scène par Carlos Wagner. Et accompagné par l'orchestre lyrique de région Avignon-Provence et chœur de l'Opéra National de Montpellier dirigé par Jérôme Pillement, avec Peter Edelman, Christophe Berry, Loïc Félix, Mélanie Boisvert. Dans les rôles principaux, c'est à 21h30 à l'Amphithéâtre d'Eau, domaine d'Eau, rue de la Carrieras. Et le prix des places varie de 10 à 38€. Une petite pause musicale, le temps de laisser le temps à nos invités de s'installer. Vous aurez peut-être reconnu Nino Rota avec un extrait de la bande originale du fameux film Il Casanova di Fellini. Ceci pour introduire notre discussion avec Daphné Brotté de l'association Raisonne. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Claude Hoc, romancier, historien de la littérature et critique d'art. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous rendre visite aujourd'hui sur les ondes de Divergence pour évoquer eh bien cette manifestation Casanova Forever à laquelle vous participez. On détaillera plus tard de quelle manière. On peut dire quand même qu'il y a une rencontre organisée demain, samedi 10 juillet, à la salle Pétrarque, dont on détaillera le programme tout à l'heure. Je vais peut-être tout d'abord commencer par présenter Jean-Claude Hoc, qui est fondateur et ou collaborateur de nombreuses revues, soit littéraires, soit liées aux arts plastiques, quand ce n'est pas les deux, quand il n'y a pas les passerelles qui opèrent entre ces deux domaines. Et puis Casanova Forever, eh bien, c'est une manifestation d'ampleur régionale qui a été donc initiée par le Fonds régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon. Une manifestation qui fait écho à d'autres manifestations de ce genre qui ont eu lieu les années passées, comme la Dégelée Rabelais ou encore Chauffe Marcel. De quelle manière, tout d'abord, l'association Raisonne s'est inscrite dans ce dispositif-là ?
Oui, eh bien, il a été proposé à Jean-Claude Hoc de réaliser une conférence. Plusieurs conférences pour cette manifestation qui accompagne la manifestation. Et le plus simple, c'était que l'association Raisonne, qui organise et réalise plusieurs projets curatoriaux, artistiques élargis, qui s'inscrivent dans le champ de l'art contemporain et aussi dans d'autres disciplines, prennent en charge une partie de toutes ces conférences et organisent un petit cycle à l'intérieur d'un plus vaste cycle qui est aussi organisé par les autres lieux d'art contemporain qui participent à cette manifestation.
D'accord.
Voilà, donc dans ce cadre, nous avons organisé une série de rencontres avec Jean-Claude Hoc. C'est lui qui a invité plusieurs personnes qu'il connaît et qui peuvent apporter un éclairage vraiment pertinent sur cette question de la vie et de l'œuvre de Giacomo Casanova, et qui est vraiment mis en avant par des artistes contemporains à travers quelques œuvres sur toute la région.
Tout cela à l'invitation, j'imagine, du FRAC
Languedoc-Roussillon. Oui, c'est ça. C'est le FRAC Languedoc-Roussillon qui a invité d'abord Jean-Claude Hoc comme consultant, et puis par la suite l'association Raisonne pour réaliser cette partie de conférence.
Alors tout le monde connaît plus ou moins Casanova, sans forcément l'avoir lu d'ailleurs, pour sa dimension évidemment romanesque, libertine et un peu mythique aussi, une connaissance un peu floue et parcellaire. Heureusement, il existe ce qu'on appelle des casanovistes, et vous en êtes, Jean-Claude Hoc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un casanoviste ?
Oui, alors tout d'abord, pour préciser un peu ce que disait Daphné Brotté, le FRAC donc organise un cycle essentiellement donc d'expositions, puisque c'est son rôle un petit peu, mais chaque fois c'est autour donc d'une figure tutélaire. Donc vous disiez tout à l'heure, Duchamp, Rabelais, cette année c'est Casanova. Et donc on voulait justement apporter, rebondir sur ce que vous venez de dire, apporter un éclairage sur ce personnage qui est, comme vous dites, un peu mythique. J'ai entendu pendant à peu près un an confondre Casanova et Don Juan, etc. Voilà, donc on m'a demandé donc d'abord de m'occuper de la partie scientifique du catalogue. Donc en demandant à des casanovistes chevronnés, les plus connus, un certain nombre de textes donc sur par exemple le rapport de Casanova avec le rapport chez Casanova entre la vérité et le mensonge, qui est une chose importante, ou bien le rapport de Casanova avec la franc-maçonnerie par exemple aussi, puis ça a été important à l'époque, ou bien la réception du texte de Casanova par les écrivains à son époque, etc. Donc cela se trouve dans le catalogue. Et ensuite, donc, de proposer un cycle de conférences, là aussi, pour faire connaître un petit peu ce personnage. Alors, pour revenir à votre question, les casanovistes sont des historiens, en quelque sorte. Disons que tous les écrivains sont connus pour leurs œuvres, mais en même temps, surtout quand ils font des biographies, leur œuvre est plus ou moins éloignée de leur vie. Ils ont tendance à la façonner, à la transformer. Voilà, donc c'est valable. Bon, je veux dire, quand on lit les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, c'est pas entièrement la vie de Chateaubriand. Quand on lit, les Confessions de Rousseau, on sait très bien que Rousseau a rangé. Bon, alors Casanova a fait un peu pareil. Donc, disons que les casanovistes sont des sortes d'historiens qui sont là pour rétablir en quelque sorte la vérité. Voire d'ailleurs souvent que Casanova dit la vérité, mais quelquefois aussi il l'arrange, il la transforme. Bon, voilà. Donc c'est un travail d'historien de la littérature essentiellement. Quoi.
Parce que dans l'imaginaire collectif, Casanova passe aussi pour un maître mystificateur. Est-ce que c'est une réputation usurpée
Pas du tout. Non. D'ailleurs aujourd'hui on a tendance souvent à lisser un petit peu Casanova, faire un personnage, j'allais pas dire politiquement correct, mais enfin, bon, un petit peu. On parle d'un grand amoureux des femmes, on parle d'un intellectuel, etc. C'est vrai qu'il était tout ça, mais bon, il ne faut jamais oublier que c'était aussi ce qu'on appelait au 18e un aventurier, un mauvais sujet. Hein, c'était effectivement un tricheur. Un escroc, il est quand même arrivé à extorquer 1 million d'euros à la marquise d'Urfé, bon, c'est énorme pour l'époque, en lui faisant croire qu'il allait lui faire une transmigration de l'âme. Bon, c'est quand même quelqu'un d'assez inquiétant par un certain point de vue. Mais par contre, son œuvre est un panorama du XVIIIe siècle, une traversée du XVIIIe siècle. Il a beaucoup voyagé, il a rencontré énormément de gens. Et il a aussi évidemment beaucoup réfléchi. Et puis en même temps, pour terminer, c'est aussi un grand écrivain français. Parce qu'il écrivait en français.
Oui. Jacques Casanova.
Giacomo, mais bon, oui, il écrit Jacques.
C'était son pseudonyme en fait en français.
Oui.
Me semble-t-il, de Saint-Gall.
Voilà, de Saint-Gall, c'est un nom qui s'est inventé, en fait, un titre de noblesse qui s'est inventé. Mais bon, son véritable nom, donc, c'était Giacomo Girolamo Casanova. Et en français, effectivement, on disait Jacques Casanova, puisque, bon, Giacomo, c'est Jacques. Quoi. Mais Saint-Gall, c'est un nom qu'il a complètement inventé en prenant, comme il dit, quelques lettres dans l'alphabet qui appartiennent à tout le monde. Et il s'est fabriqué un nom, ce qui est déjà là aussi quelque chose d'assez intéressant et qui en fait, finalement, un personnage assez moderne. Emmanuel Latreille, par exemple, parle quelquefois du premier artiste en parlant de Casanova, puisque c'est quelqu'un qui est capable de se mettre en scène, de s'inventer, d'inventer son nom. Voilà, donc c'est un élément important et qui se retrouve un peu dans les expositions aussi où plusieurs artistes ont essayé de travailler un peu là-dessus. L'artiste est celui, à partir du XVIIIe siècle, l'artiste est en quelque sorte celui qui décide lui-même qu'il est un artiste, qui décide de lui-même qu'une œuvre est une œuvre d'art. Et Casanova, finalement, est pris là-dedans aussi avec son goût pour les déguisements, les transformations. Il y a toute cette dimension aussi qui est importante.
Emmanuel Latreille, donc avec qui vous avez co-animé une rencontre, c'était avant-hier, mercredi 7 juillet, à la médiathèque centrale d'agglomération, autour du manuscrit de Casanova récemment acquis par la Bibliothèque nationale de France. De quoi s'agit-il précisément? Rappelez-nous.
Alors en fait, c'est un manuscrit qui était la possession depuis les années 1820 d'une maison allemande qui s'appelle Brokos. Un certain nombre de versions étaient parues. La version véritable est parue dans les années 60. Et ce manuscrit a effectivement été... Alors en fait, il a été acquis, d'après ce qu'on sait, par un mécène qui veut rester anonyme et qui en a fait cadeau à la Bibliothèque nationale. Il a été acquis quand même pour la somme de 7,5 millions d'euros, ce qui est quand même assez énorme. Et donc la région a obtenu d'avoir quelques feuillets donc, qui ont été présentés à la médiathèque Émile Zola. Et on m'a demandé donc de faire une petite conférence, si vous voulez, sur l'histoire de ce manuscrit. Donc, comment Casanova l'a écrit, puisqu'il y a eu plusieurs versions, etc. Et puis ensuite, toute l'aventure donc des publications, puisque d'abord il a été publié en traduction allemande, puis ensuite il y a eu une édition qui reprenait l'édition allemande, mais en traduisant en français, mais qui n'était toujours pas Casanova. Et en fait, il a fallu attendre un peu plus d'un siècle pour que la vraie version sorte. Donc cette version se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale et va faire l'objet d'ailleurs dans 3 ou 4 ans, enfin bon, les Casanovistes vont être au travail là très bientôt, d'une nouvelle édition de la Pléiade. Puisque l'ancienne édition de la Pléiade était une version rewritée, ce n'était pas la vraie version de Casanova. Voilà, donc j'ai un peu parlé de ça à la médiathèque.
À quoi tient, selon vous, je m'adresse à tous les deux, la fascination qu'exerce encore aujourd'hui le personnage de Casanova? Est-ce que c'est lié uniquement à son œuvre littéraire quelle place occupe son œuvre littéraire par rapport à l'image un peu mythique comme ça de sa vie, de fuyard en quelque sorte?
Oui, c'est vrai qu'il y a une fascination. Bon, c'est pour ça qu'on confond souvent Casanova et Don Juan, puisque ce sont tous les deux des figures du séducteur. Donc ce qui séduit intéresse. Et donc, pourquoi séduit-il? Comment séduit-il? Donc, c'est vrai que c'est très important. Bon, mais ensuite, quand on commence à s'intéresser d'un peu plus près, je vous dis, il y a tout un panorama du XVIIIe siècle. Enfin, c'était vraiment, ça a été le témoin du XVIIIe. Il allait aussi bien de Madrid à Saint-Pétersbourg, de Londres à Constantinople. Enfin, c'était le premier Européen, quoi. Voilà. Donc, il y a aussi, enfin, je pense qu'il y aurait toute une stratification au niveau de la façon dont il peut fasciner les gens. Hein. Alors, certains ne s'intéressent qu'à, bon, qu'à son rapport avec les femmes, ou bon, d'autres s'intéressent à son rapport avec, par exemple, l'alchimie, les choses comme ça. Hein, c'est quelqu'un qui touchait un peu à tout. Enfin, c'était un personnage des Lumières, bon, une figure du XVIIIe siècle, particulièrement curieux, en fait, de tout ce qui se passait à son époque, en fait.
Oui, et puis je crois aussi que c'est la question de la mobilité qui nous intéresse à nous aussi, de notre point de vue du début du XXIe siècle. La mobilité dans tous les sens du terme, géographique, historique et je dirais même psychique, parce que finalement, la faculté qu'avait Casanova de s'inventer, de se réinventer à chaque fois et en fonction avec qui il avait affaire, nous concerne aussi à nous, suivant les circonstances dans lesquelles on se trouve. Les questions du rapport au travail sont complètement remises en question aujourd'hui. On ne peut pas prétendre qu'on travaille pour toute sa vie dans le même travail. Et donc, la mobilité est de mise à tous les niveaux aujourd'hui. Donc, je pense que c'est cette question-là aussi qui a beaucoup intéressé l'association Raisonne, cette question de mobilité à tout point de vue, de création de nouveaux territoires, de nouvelles écritures, de nouvelles histoires, de fiction à partir de la réalité.
Donc, ce sont ces aspects-là qui en fait, questionnent l'art contemporain d'aujourd'hui. De quelle manière, justement, les artistes aujourd'hui s'emparent de cette figure ?
Excusez-moi.
Je me posais la question. De quelle manière les artistes contemporains d'aujourd'hui s'emparent de cette figure de Casanova? Qu'est-ce qu'ils y trouvent?
Oui, ben, c'est ça. C'est-à-dire que là, il faudrait leur poser la question chacun. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à développer de particulier? Il y en a qui ont développé la question du jeu, par exemple, et qui déjà les intéressaient d'une certaine manière et qui ont trouvé quelques recoupements avec Casanova. D'autres, c'est la question justement de la narrativité, de la fiction, de comment on revient sur le texte, sur l'écriture, sur la construction d'une œuvre. Il y a différents lieux, en fait, effectivement, dans toute la région qui explorent ces questions-là et qui explorent, en fait, les questions, pas seulement de mobilité, mais aussi, bon, voilà, de récits, d'éléments, d'objets, de factices, de construction et de déconstruction. Je pense que c'est ça qui anime aussi.
Certains thèmes aussi, comme par exemple à Sals, c'est le thème de l'évasion. Bon, Casanova est célèbre pour son évasion des plombs qu'il a rendu. En fait, il a été célèbre au XVIIIe siècle uniquement à cause de cela. En fait, il était très peu connu. Il a fallu attendre le 19e siècle pour qu'on commence à s'intéresser à lui. Voilà, donc ça, on peut développer certains artistes ou certains curateurs s'intéressent ou bien à un thème, à une thématique, ou bien à un aspect du personnage qui leur paraît important, avec lequel ils se rattachent. Bon, Alicia Paz, par exemple, au lac, s'est intéressée à tout ce qui est séduction au niveau des vêtements, enfin, ça dépend un petit peu, si vous voulez, des artistes chaque fois.
Oui, Groot et Mazéas aussi ont réalisé un très beau travail sur la question justement de l'évasion des plombs, sur la question du montage, de la construction d'un récit. C'était très... Il y a des belles choses, en fait, un petit peu partout dans toute la région, d'artistes qui se sont saisis d'un endroit, en fait, de Casanova.
Et on retrouve le programme complet de ces différentes manifestations sur le site de la région Languedoc-Roussillon, bien sûr. Justement, alors, ce qui justifie la tenue de cette manifestation en région, c'est que Casanova, précisément, est passé dans notre région. Est-ce qu'on peut rapidement retracer cette période de sa vie?
Oui, alors, donc, c'est... À la fin de 1768, donc, il est à Barcelone. Il a passé un an en Espagne. Donc, il est enfermé à Barcelone parce qu'il avait trouvé, il avait rien trouvé de mieux que de devenir l'amant de la maîtresse du comte de Ricla, qui était le gouverneur de la Catalogne. Et donc, ensuite, on le libère au bout de 6 semaines. Et là, il va revenir vers l'Italie. Donc, il passe par Perpignan. Il passe par Narbonne, Béziers, Pézenas, Montpellier, où il reste une douzaine de jours et où il retrouve d'ailleurs une ancienne maîtresse qu'il avait connue autrefois en Angleterre, puis ensuite en Saxe. Et ensuite, il passe à Nîmes aussi, où il restera une vingtaine de jours, où il rencontrera notamment le naturaliste Séguier. Et puis ensuite, il continue par Aix-en-Provence, Marseille, jusqu'à Italie. Mmh. Voilà, donc en fait, finalement, ces manifestations du FRAC suivent à peu près le chemin de Casanova donc dans la région, quoi. Donc c'était un argument de plus, quoi, pour choisir ce personnage-là. Bon, c'est vrai que Rabelais avait aussi des rapports avec Montpellier, mais enfin, c'était bon, ces années d'études de Montagnique. Là, il y a vraiment un déplacement dans la région qui correspond un peu au déplacement des spectateurs qui vont suivre un petit peu toutes ces manifestations, quoi.
Parlons à présent de cette rencontre demain, samedi 10 juillet, donc à partir de 17h30, organisée par l'association Raisonne. C'est à la salle Pétrarque, un entretien avec Helmut Vaclavic, j'espère ne pas écorcher son nom, et vous-même, Jean-Claude Hoc, autour de Casanova et les Casanovistes. Pouvez-vous nous présenter votre interlocuteur pour cette
oui,
rencontre ?
Oui, alors Helmut Vaclavic est sans doute aujourd'hui le casanoviste le plus connu, le plus chevronné. Bon, il a participé notamment à l'édition Bouquin de Casanova, il sera également dans l'édition de la Pléiade. C'est quelqu'un qui s'intéresse à Casanova depuis les années 60. Bon, il a connu un petit peu tous les stades du casanovisme du XXe siècle. C'est une véritable encyclopédie vivante. Et donc, nous discuterons justement, je lui poserai des questions donc sur justement ce qu'est le casanovisme, à quoi sert le casanovisme, quelles sont les techniques des casanovistes, etc. Voilà, donc ça sera une partie un peu historique, quoi, et qui sera ensuite contrebalancée par la conférence de Gabriel Masneff, qui lui donc est un des grands écrivains contemporains et qui s'est intéressé à Casanova de toute sa vie et qui va essayer d'expliquer, enfin je pense dans la conférence justement, ce que Casanova a pu lui apporter. Masneff est aussi un diariste, hein, il a tient un journal depuis des années, donc il a écrit un livre autrefois qui s'appelait Maîtres et disciples. Bon, et voilà, il va essayer de voir Casanova un petit peu de ce point de vue-là. Alors ça pourrait être intéressant d'ailleurs de comparer la vision d'un écrivain qui ne s'intéresse qu'en fait qu'à l'histoire de ma vie, c'est-à-dire qu'à l'œuvre de Casanova, et deux casanovistes qui, eux, bon, justement, vont aussi regarder sur les bords, essayer de voir ce qui est vrai ou pas vrai. Est-ce que c'est important que ce soit vrai ou pas vrai? Est-ce que quand c'est inventé par un écrivain, c'est pas aussi vrai que quand ce n'est pas le cas? Voilà, donc on essaiera de parler un petit peu de tout ça. Et en même temps, il y aura une lecture donc, d'Henriette Torrenta, qui est une jeune comédienne de Perpignan, qui lira des extraits donc de l'histoire de ma vie. Ça fait qu'on aura comme ça plusieurs stades, quoi, donc plusieurs strates là aussi du rapport qu'on peut avoir donc avec Casanova. Donc pour nous c'est une après-midi importante, bon, avec celle qui aura lieu aussi le dimanche 26 au domaine d'eau.
Voilà, alors là c'est un peu plus lointain, ce sera
en septembre. Ça, oui.
Oui, parce que celle qui suit celle du 10 juillet, c'est celle du 17 juillet à Narbonne. Voilà, donc c'est aussi une façon d'accompagner les manifestations, enfin les expositions de la manifestation dans plusieurs lieux, à Narbonne, à Sérignan, aussi du Pont du Gard, à Nîmes. Et à Montpellier, voilà.
Alors, Narbonne, c'est un peu particulier. Enfin, certaines sont un peu particulières, oui, parce qu'elles ne dépendent pas forcément du FRAC. C'est-à-dire que, par exemple, à Narbonne, chaque année, il y a une manifestation qui s'appelle Horizon Méditerranée. Et cette année, ils ont choisi l'Italie. Et donc, ils m'ont demandé de faire une conférence sur Casanova et un vénitien. Parce que ça s'inscrit, si vous voulez, ils voulaient, bon, d'une certaine façon, se rattacher également au projet donc du FRAC, mais c'est un peu éloigné. Au Pont du Gard, c'est un peu pareil, quoi. Bon, le Pont du Gard fait quelque chose donc sur Casanova, mais là aussi, bon, la conférence, si vous voulez, ne dépend pas entièrement de Raisonne. Bon, ça dépend. Il y a des conférences qui sont organisées donc par Raisonne, d'autres qui se rattachent au cycle. Bon, en tout cas, pour essayer de parler le maximum de Casanova pendant tout cet été, dans la région. Hein, avec d'autres auteurs, d'ailleurs, hein, puisque bon, Jean-Didier Vincent, par exemple, parlera à Narbonne. Gérard Lawati, qui est aussi un casanoviste, qui va participer également à la nouvelle édition de la Pléiade, parlera donc fin août, le 27 août, à Nîmes. Bon, voilà, donc il y a un grand éventail, quoi, d'approches.
Pour terminer, Daphné parlait tout à l'heure de mobilité. Selon vous, quel serait l'enseignement de Casanova aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous apprend sur peut-être sur notre époque d'ailleurs?
Ben, je crois qu'il nous apprend justement à se déplacer, c'est-à-dire que bon, c'est finalement le fait de rester toujours au même endroit, c'est une forme de sclérose en quelque sorte au niveau de l'esprit. Bon, et Casanova est quelqu'un au contraire qui a une grande mobilité sociale, bon, une grande mobilité historique, une grande mobilité géographique, une grande mobilité de pensée également. Et en cela, je pense qu'il se rapproche effectivement de l'art contemporain, ou en tout cas de beaucoup d'artistes contemporains. Enfin, si je reprends là un peu ce que disait Daphné tout à l'heure, mais c'est un petit peu ça, quoi. Je crois que c'est ce qui est important, quoi.
Très bien, merci à tous les deux d'être passés par nos studios. Je rappelle que on vous retrouve demain, samedi 10 juillet à 17h30 à la salle Pétrarque pour une rencontre autour de Casanova et les Casanovistes. Et puis on vous souhaite un bien bel été autour de cette figure. On va se quitter avec un extrait de cette bande originale composée par Nino Rota. Deux mots sur le film de Fellini d'ailleurs, que j'imagine vous avez vu.
Oui, alors c'est effectivement un grand film. Bon, Fellini détestait Casanova. Il me semble que Casanova s'est quand même très bien sorti finalement de cette affaire-là. Il y a un texte de Dominique Fernandez justement où il explique que finalement Casanova a été plus fort que Fellini par un certain côté. Et je pense que bon, le personnage de Sutherland, effectivement, il y a un côté quelquefois ridicule, mais bon. Il reste quand même important.
Merci.
Merci de nous avoir reçus.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, ainsi se referme cette édition de Ici l'ombre. Merci à Quentin et Ellie. On se retrouve lundi et on changera de sujet. On parlera musique et musique du monde avec Marie-Josée Justamont, directrice du festival Les Suds à Arles, dont la 15e édition débutera précisément lundi.